Chapitre 21. Miller Rowe l'attend devant la maison de Cheyne Walk, les yeux rivés sur son téléphone. Il a l'air encore plus débraillé que ce matin au café. Il se redresse en voyant Libby et Dido approcher et leur sourit.
« Miller, je vous présente Dido, ma collègue, mon amie, »
se corrigea-t-elle.
« Dido, Miller Rowe. »
Il se serre la main et se tourne vers la façade de la maison plongée dans l'ombre, le soleil du soir baignant de ses rayons dorés l'autre rive de la Tamise.
« Libby Jones, mais pincez-moi, c'est un vrai manoir !»
Libby sourit et ouvre le cadenas. Ses deux compagnons se pressent dans le vestibule, observant tout autour d'eux. Elle ne se sent pas du tout chez elle. Elle s'attend encore à voir le notaire lui passer devant d'un pas autoritaire.
« Je vois ce que vous vouliez dire à propos du bois partout. À l'époque, cette maison était pleine de têtes d'animaux empaillées et de couteaux de chasse. Il paraît qu'il y avait deux trônes ici, »
ajoute-t-il en désignant les côtés de l'escalier.
« Un pour monsieur et un pour madame. »
« Qui vous a raconté ça ?» demande Dido.
« De vieux amis de Henry et Martina qui étaient invités aux soirées extravagantes qu'organisaient les Lemb jusqu'au début des années 1980, quand ils faisaient encore partie du gratin, que les enfants étaient petits. C'était très glamour, paraît-il.
« Et ces vieux amis, ils étaient où quand ça a tourné au vinaigre ?»«
Ce n'étaient pas de vrais amis. Leur entourage était constitué de parents des camarades des enfants, de voisins qui allaient et venaient, de connaissances croisées en soirée, de gens qui ne s'intéressaient pas vraiment aux Lemb, mais qui se souvenaient très bien d'eux.
Et de leur trône?
Exactement.
Et leur famille? Personne ne s'est inquiété?
Henry n'avait pas de famille à proprement parler. Il était fils unique, et ses deux parents étaient décédés. Martina n'était plus en contact avec son père depuis des années. Sa mère s'était remariée et vivait en Allemagne avec sa nouvelle famille. Apparemment, elle a essayé plusieurs fois de venir, mais sa fille l'en a toujours dissuadée. En 1992, elle a même demandé à l'un de ses fils d'aller à Londres. Il est venu frapper à la porte tous les jours pendant une semaine, mais personne n'a répondu. Il dit avoir entendu des bruits, vu des rideaux bouger. Quand on appelait au téléphone, ça sonnait dans le vide. La mère ne s'est jamais remise de ne pas avoir essayé davantage de renouer avec sa fille.
« Je peux ?»
demande-t-il en se tournant sur sa gauche, vers la cuisine. Libby et Dido lui emboîtent le pas.
C'est ici que les enfants suivaient leurs leçons. Les tiroirs étaient pleins de feuilles de papier, de cahiers et de manuels.
Qui leur faisait cours ?
On ne sait pas. Certainement pas Henry Lemb, qui n'était pas bon à l'école et n'avait pas réussi à entrer à l'université. Probablement pas Martina non plus, l'anglais n'étant pas sa langue maternelle. C'était sans doute l'un des autres, ou plutôt l'une des autres.
Où sont passés les cahiers?
Je ne sais pas. Ils sont peut-être encore ici.
Libby s'approche de la grande table en bois qui a deux tiroirs de chaque côté. Elle retient son souffle et les ouvre un à un.
Vide.
Elle soupire.
Des pièces à conviction, explique Miller. Ils ont probablement été détruits depuis le temps.
Quels autres objets ont été prélevés ? Demande Dido.
Les vêtements, les draps, tout le matériel d'apothicaire, les flacons, les fioles et ce genre d'accessoires. Les savons, les torchons, les serviettes, tout ce qu'on pouvait analyser. Il n'y avait presque rien d'autre de toute façon. Rien sur les murs, pas de jouets, pas de chaussures.
Pas de chaussures ? Répète Dido.
Libby hoche la tête. C'était l'un des détails qui l'avait profondément marqué dans l'article de Miller. Une maison pleine d'habitants sans une seule paire de chaussures. Cette cuisine devait être à la pointe de la mode dans les années 1970, fait remarquer Dido en regardant autour d'elle.
C'est vrai, et très haut de gamme. En fait, avant qu'il ne commence à tout vendre, tout ce que les Lemb achetaient provenait de chez Harrods. L'archiviste du magasin m'a montré leurs factures depuis que Henry avait acquis la maison. L'électroménager, les lits, les abat-jour, les canapés, les vêtements, une commande de fleurs coupées par semaine, les rendez-vous chez le coiffeur, les produits de toilette, les serviettes, la nourriture, tout.
Mon berceau aussi?
Oui. Si je me souviens bien, il a été acheté en 1977 pour la naissance de leur fils.
J'étais le troisième bébé à l'utiliser,
je présume.
Il se dirige vers la pièce à côté du vestibule.
Selon vous, qu'est-ce qui leur est arrivé ?
Demande Dido à Miller.
Pour la faire courte, des gens louches s'installent dans la maison d'une riche famille qui connaît un revers de fortune. Des événements étranges se produisent et tout le monde meurt, sauf plusieurs adolescents dont on n'entend plus jamais parler. Et puis, il y a le bébé, Serenity, et au moins une autre personne qui s'occupait de cultiver les plantes destinées à la fabrication des remèdes. J'ai passé un mois entier à chercher tous les apothicaires, au Royaume-Uni et à l'étranger, qui auraient pu être à Londres à cette époque. Chou blanc.
Ils sont désormais dans une pièce au plancher sombre et au mur recouvert de lambris. Il y a une grande cheminée en pierre d'un côté et un bar en acajou de l'autre.
Et si, ils ont trouvé des choses bizarres,
raconte Miller d'une voix grave.
Au début, la police a pensé qu'il s'agissait d'objets de torture, mais en réalité c'était des équipements sportifs, faits maison. Les trois cadavres retrouvés étaient particulièrement fins et musclés. C'était ici qu'ils faisaient de l'exercice, probablement pour contrer les effets négatifs de leur isolement. Là encore, j'ai passé un mois à chercher tous les entraîneurs que je pouvais interroger pour leur demander s'ils savaient s'il y avait beaucoup d'adeptes de la calisthénie à Chelsea dans les années 1980 et 1990. Encore une fois, je n'ai rien découvert.
Il soupire puis se tourne vers Libby.
Vous avez trouvé l'escalier secret qui mène au grenier ?
Oui, le notaire me l'a montré.
Vous avez vu les verrous sur les portes des enfants ?
Libby sent un frisson lui parcourir l'échine.
Je n'avais pas encore lu votre article, je ne les ai pas remarqués. Et quand je suis revenu, j'ai cru entendre quelqu'un,
ajoute-t-elle après une pause.
J'ai eu peur et je suis parti.
On va voir ce qu'il en est.
D'accord.
Il y a le même genre d'escalier chez mes parents,
commente Dido en posant la main sur la rampe.
Ça me foutait toujours les chocottes quand j'étais petite.
J'imaginais qu'un fantôme allait fermer les deux portes à clé et que je me retrouverais coincé à tout jamais.
Libby presse imperceptiblement le pas à cette idée. Elle arrive au grenier un peu essoufflée.
« Ça va ?»
lui demande Miller.
« À peu près, »
murmure-t-elle.
« Vous entendez ça ?»
poursuit-il en plaçant sa main derrière son oreille.
« Quoi ?
Les craquements ?»
Elle hoche la tête, les yeux écarquillés.
« C'est le bruit des vieilles maisons quand elles ont trop chaud ou trop froid. Elles se plaignent. C'est ce que vous avez entendu l'autre jour. »
Elle hésite à lui demander si les vieilles maisons tous aussi, mais elle se ravise. Miller sort son téléphone de sa poche et commence à filmer devant lui.
« Voilà, c'est ici !»
chuchote-t-il en tournant son portable vers la porte de la première chambre à gauche.
« Regardez !»
Elle s'immobilise derrière lui. Il y a un verrou à l'extérieur de la chambre. Elle le suit jusqu'à la porte suivante où il découvre un autre verrou.
« Et encore un !» Et encore un. Les quatre chambres pouvaient être fermées de l'extérieur. La police pense que c'était là où les enfants dormaient. C'est dans ces pièces qu'ils ont trouvé des traces de sang et des marques sur les murs. Il y avait même un verrou sur la porte des toilettes. Regardez. On entre ?
Reprend-il en s'arrêtant devant une chambre. Sa main est déjà posée sur la poignée. Libby acquiesce. Quand elle avait lu l'article de Miller, elle avait survolé les paragraphes à propos des chambres du grenier, incapable de se confronter à une telle violence.
Maintenant, il faut qu'elle en ait le cœur net.
C'est une pièce assez grande, peinte en blanc avec des plinthes jaunes, du parquet, des rideaux en lambeaux aux fenêtres, des matelas fins dans un angle, et rien d'autre. La chambre suivante est identique, la troisième également. Libby retient son souffle en entrant dans la dernière, persuadée qu'un homme les attend derrière la porte. Mais il n'y a personne. Rien qu'une chambre blanche de plus avec des rideaux et du parquet. Ils sont sur le point de refermer la porte derrière eux quand Miller suspend son geste, s'avance vers le coin le plus éloigné de la pièce et braque son téléphone sur le matelas qui s'y trouve.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il tire sur le matelas et découvre un objet coincé entre celui-ci et le mur.
« Qu'est-ce que c'est ?»
Il attrape l'objet et le montre à sa caméra, puis à Libby et Dido.
« Une chaussette !»«
Quoi ?
Une chaussette d'homme.
Le tissu est rouge et bleu, une tache de couleur qui détonne dans la blancheur de ses chambres.
C'est bizarre. Plus que ça, c'est impossible. Regardez,
leur intime-t-il en s'approchant d'elle. La chaussette est floquée du logo Gap.
Quoi? Je ne comprends pas. C'est le logo Gap actuel, et ça ne fait que 2 ou 3 ans qu'ils l'ont changé,
explique-t-il en dévisageant Libby.
Cette chaussette est neuve.